autres samedi soir qui ne mène nulle part. Pendant que se fait la file au centre-ville, les gens s'arrachent entre eux l'étiquette de parking. On avance entre les buildings et on sourit du regard sans rien dire.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue,
bonjour et bienvenue à l'émission Le Jour n'est pas reçu sur Facebook Live et CKRFM 88,3. Je m'appelle Larry Hodgson et nous sommes cette semaine dans ma serre. Enfin, je t'ai dit, je fais ça dans mon bureau depuis quelque temps, mais il y a des travaux dans mon sous-sol et je pensais que ça allait être plus tranquille ici. Est-ce que vous risquez d'entendre du bruit? Parce que quand il y a des travaux, il y a des sons. Mais le microphone est assez bon pour prendre d'habitude des choses, surtout directement devant. On devrait être bon, j'imagine que oui. Ben, bonne année tout le monde. Hein. On a changé de cap. On pensait être sorti de la COVID. Hein. On pensait. Et finalement, attends qu'on plonge dedans.
Ben, voilà. Mais Larry, oui. Tu parles de COVID, ça me fait rire parce que j'écoutais la radio ce matin et il disait dans les médias que il arrête de tester. Sont plus capables, ils sont comme au maximum du testage. Là, s'ils testent plus, ils n'en trouvent plus, donc les cas vont baisser, donc on va s'en sortir.
Ah bon, voilà, on va arrêter de tester et donc ça disparaît. C'est une façon de faire. Je comprends
ouais,
ça.
C'est bien
je fais souvent ça, moi-même, quand il y a quelque chose que je ne veux pas savoir, je fais semblable, si ce n'est pas là. Et finalement, je l'oublie. Bon, voilà. Enfin, c'est ça. Un bon trois. Ici, il n'y a pas grand-chose au niveau des plantes, mais un grain de queue fait peut-être voir son feuillage juste en arrière de moi. Une feuille au moins. Mon oiseau de paradis va fleurir deux fleurs cette fois-ci. Pas encore en fleurs. Je vous montrerai peut-être la fleur quand elle va apparaître. Mais deux fleurs, c'est la vérité. Mandela's Gold avec des fleurs jaunes plutôt qu'orange. En tout cas, c'est toujours une bonne surprise, ça. Ça ne fleurit pas souvent, mais quand ça fleurit, c'est spectaculaire et ça dure longtemps. Voilà. Donc, j'ai pas fait grand-chose avec les plantes pendant les dernières fêtes, autre que l'entretien de base des plantes intérieures. Pas de semis encore. J'aurais pu, mais j'ai pas grand-chose à porter très tôt cette année-ci. Mais les catalogues rentrent. Hein. J'ai eu des catalogues imprimés de W.H. Perron est arrivé. Quel autre? En tout cas, d'autres sont arrivés. Ils s'en vont en ligne. Les compagnies de semences sont là avec le produit. Donc, ça, c'est intéressant. Il faut les commander de bonne heure. Alors, ça, déjà, l'an dernier et l'année précédente, la difficulté qu'il y avait d'avoir des semences parce qu'ils sont disparus vite. Mais en les commandant tôt, on les attend pour les semer. Donc, si vous faites les semer au mois de mars, ça serait bon de commander minimum au mois de février pour être certain d'avoir tout ce qu'il vous faut. Voilà. Ça donne les pour ces choses-là. Les autres catalogues sortent plus tard. Les gens qui vendent des plantes, comme des vivaces, des arbustes, habituellement, c'est plus tard, avant qu'ils commencent à s'annoncer. Et voilà. Donc, j'ai recommencé tout de suite. J'ai jamais de congé, moi. J'ai du travail tous les jours. Mais j'ai annoncé à tout le monde dans mon blog du jour de l'an à ma maladie. Parce que je n'ai jamais vraiment dit, et je voulais que les gens saisissent. Et j'ai décidé que je ne répondais plus, mais vraiment plus, aux questions sur mon blog. C'est devenu trop un fardeau. Et je me suis dit, tiens, on va danser en même temps. Je ne réponds plus aux questions. Et en partie à cause du fait que je suis malade, ce qui est toujours vrai aussi. Et voilà. Les gens semblent bien réagir pour l'instant, mais c'est regrettable. Donc, si vous avez des questions, il y a ici où je peux répondre encore. Autrement, pas tellement, parce que c'est sur le blog, il faut comprendre que le blog, Jordi Paresseux, devient de plus en plus gros. Des millions de personnes par année, et je n'exagère pas, des millions. Fait que les questions ne cessent d'augmenter. Et à un moment donné, si j'avais une équipe pour répondre, ce serait bien, mais je suis tout seul pour le faire. Fait que voilà, pas de réponse aux questions, mais je continue d'écrire des blogs. Et voilà. Mais je fais ici sur Facebook Live tant que je suis capable de le faire. Donc ça, c'est mon idée. Et voilà. Bon, on va laisser ça maintenant à Michel de choisir. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont entrées.
Larry, malheureusement, je peux t'aider pour la radio, mais pour le blog, je passe mon tour.
On
a beaucoup de souhaits de bonne année, tout ça. Donc, je ne lirai pas ces commentaires-là, mais sachez que on les voit, on les lit, puis c'est bien le fun de savoir que l'émission est appréciée. La première question, on va aller avec Patricia Dufresne. Bonjour, heureuse d'être dans votre serre. Voilà, ça fait deux fois que j'achète une Senecio peregrinus, la plante dauphin, et voilà que chaque fois, elle retourne à sa nature type, si je m'exprime bien. Donc, plus de dauphin, les feuilles sont aplaties. Je me demande pourquoi fait-elle ça.
OK. Donc, la plante en question, Senecio peregrinus, c'est une plante succulente. On l'a sorti de beau la mettre récemment, on a donné un nouveau nom. On l'appelle plante dauphin ou colis de dauphin, quelque chose comme ça. C'est une plante dans la nature rampante qui pousse dans les déserts en Afrique du Sud. Et on pousse, ça retombe. Bon. Et les feuilles sont curieusement faites. Et sous une certaine angle, on pourrait dire que ça ressemble à des dauphins. Le problème, c'est que pour prendre cette forme-là, qui est la forme que la plante produit à l'extérieur au plein soleil, il faut avoir le plein soleil. Superbe et intense éclairage. Et ce n'est pas possible à l'intérieur, et surtout pas l'hiver. Même dans même l'été, les plantes sont rarement, comme on les voit dans les photos sur l'Internet, parce que la plupart des gens n'ont certainement pas un éclairage assez intense. Quelqu'un qui a des grandes fenêtres au sud peut l'avoir l'été, mais l'hiver, que voulez-vous faire? On n'a pas l'éclairage nécessaire. Et même les lampes artificielles, l'éclairage artificiel, je ne suis pas certain que ce soit assez. C'est vraiment une plante qui, pour garder sa forme, il faut avoir un éclairage super intense, plein soleil, rien de moindre, et l'hiver, probablement, il n'y a rien à faire. C'est comme ça.
Après ça, comme je dis, il y a encore beaucoup de vœux de bonne année et tout, mais la question suivante est de Kate Redford. Contente de vous voir. J'ai entré mon alocasia qui était à l'extérieur cet été. Il a fait de nouvelles feuilles. J'ai vu une vidéo où les gens coupent les feuilles et entrent seulement les bulbes pour loi et... Il n'y a pas la suite.
Bon, de toute façon, je présume que veut dire rentre sur le bulbe pour l'hiver. C'est peut-être une question de faute de frappe. Oui, je comprends. Donc, alocasia. Pour ceux qui ne saisissent pas, on appelle des fois oreille d'éléphant. C'est une plante avec grandes feuilles en forme de tête de flèche. Elles peuvent être vertes, elles peuvent être pourpre foncées. Et c'est une plante à bulbe. On achète sous forme de bulbe des fois. et la probabilité des feuilles est énorme. Maintenant, cette plante-là peut entrer en dormance. On peut couper l'eau. Dans ce cas-là, la plante va perdre ses feuilles peu à peu, entrer en dormance et retourne sur la forme de bulbe. Par contre, si on continue de l'arroser, le feuillage va rester humide et la plante n'est pas de dormance obligatoire. Dans son milieu naturel, elle entre en dormance s'il y a une sécheresse. S'il n'y a pas de sécheresse, elle pousse à l'année. Donc, tant que vous gardez ça humide et relativement chaud, la plante va continuer de pousser. Ce qu'il faut qui est à craindre, par contre, je ne dis pas de garder en croissance l'hiver, j'en ai un qui est en croissance actuellement, mais il ne faut pas que ce soit froid. C'est qu'en dormance, le bulbe a le plus de fraîcheur. Mais la plante même n'aime pas le froid du tout. C'est en bas de 15 degrés, ça commence à souffrir. 15 degrés, là, c'est pas très froid. Plante très tropicale. Donc, si vous jugez que votre maison va devenir froid l'hiver, ou la place où vous mettez va devenir froid l'hiver, c'est mieux de l'obliger à entrer en dormance. Et encore, il s'agit de couper les arrosages. Et la plante va entrer en dormance. Et dès que ça commence à se réchauffer, on rajoute de l'eau et ça repousse. Ou si vous pouvez garder 15 degrés et plus tout le temps dans la maison et que vous avez un éclairage modéré, ce n'est pas une plante qui exige un éclairage intense, vous pouvez le garder en croissance toute l'année. Donc, dans le fond, vous avez le choix avec cette plante-là. Dormance totale, sans arrosage durant des mois, ou encore culture en croissance continue durant l'année. Voilà.
Steve Gagnon, est-ce une bonne idée de mettre un tuteur à une nouvelle branche avec des boutons de fleurs d'une orchidée ou c'est mieux de laisser pendre?
La réponse à ça, c'est une question de goût. Quand on voit des orchidées, des phalaenopsis, on les vend toujours avec un tuteur. Et les gens pensent que c'est important, fait qu'ils tuteurent leur tige florale. Ce qu'ils ne saisissent pas, c'est que le but du tuteur, cette plante-là, c'est pour la vente. C'est que comme les tiges sont arquées, si vous mettez plusieurs plantes dans un plateau, et les tiges sont toutes arquées, ça va se briser, là. Ça va s'enflammer, ça se brise. Avec un tuteur, on les garde droit, et ça donne une forme un peu bizarre, parce que la plante n'aime pas ça, mais c'est quand même potable. Donc, à la maison, on peut enlever ça, il n'y a pas de problème. Et ça dépend des goûts. Moi, je les laisse libres, je ne les mets jamais tout à l'heure. Je trouve que c'est très beau, cette forme arquée-là. D'ailleurs, c'est supposé de ressembler à un essaim de papillon. L'idée même, d'ailleurs, c'est la plante qui est pollinisée par les papillons, le phalaenopsis. Et la fleur ressemble à un papillon en mouvement. Donc, l'idée avec la plante est que quand la tige est arquée et bouge au vent, c'est comme s'il y a des papillons qui volent. Et ça peut tirer des papillons mâles pour polliniser. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, à la maison, on peut mettre le tuteur si on veut, ou on peut laisser la plante prendre sa forme naturelle. Les deux sont parfaitement corrects.
OK, on y va maintenant avec Joanne Parent, qui nous souhaite également bonne année. Peut-on acheter des semences provenant d'un semencier américain?
Presque toujours, oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception. Je sais que... Oh, c'est quoi la compagnie? Burpee. B-U-R-P-E-E, qui est une des grandes compagnies américaines, ne vend pas au Canada. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais c'est un des rares. En tant que je sache, toutes les autres vendent des semences au Canada. Ils ne vendront pas nécessairement des matériaux. Ils ne vendront pas nécessairement, sûrement pas des plantes. Ça prend un permis. Mais pour les semences qui peuvent voyager entre pays sans papier, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on peut commander des semences de n'importe où au monde. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Moi, je commande souvent d'autres pays. Et sinon, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Mais en commandant aux États-Unis ou à l'étranger ou en France ou peu importe, on obtient des fois des plantes qui ne sont pas disponibles autrement. Donc, les semences, oui, on peut commander à l'étranger sans complication, sauf exception. Pour les plantes, c'est non en général.
Puis j'imagine que faut faire attention aux zones de rusticité, des trucs comme ça, quand on commande de d'autres pays.
Oh, bien sûr. Puis souvent, les gens savent ce qu'ils veulent et ils ne trouvent pas la plante tout simplement. Parce qu'il y a des plantes parfaitement rustiques qui ne sont pas vendues au Canada. C'est pas parce que c'est ici. Ou si c'est des plantes intérieures, c'est pas l'importance. Même chose pour les plantes annuelles. Fait que oui, on peut commander ailleurs. Il n'y a pas de problème avec ça.
Question de Lise Vigneault. Bon matin et une bonne année à vous. Concernant les semences, comment je peux réussir à partir des plants de Caragana? Ou bien une belle référence?
Le Caragana, comme beaucoup d'arbustes, des climats froids, le Caragana vient de la Sibérie, entre autres. Là. Donc, c'est un arbuste de foie. La plupart de ces plantes-là, les semences ont besoin de traitement au foie pour germer. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut les semer l'automne, à l'extérieur, et ça germe au printemps. Là, ils vont avoir eu une période de froid. Ou on peut les semer en pot, à l'intérieur, et leur donner une période de froid. Donc, ce que souvent les gens vont faire, c'est de prendre des semences, les semer dans une pot de terre humide, mettre dans un sac de plastique pour pas que ça sèche, et les mettre au frigo. Et comme ça, pas besoin que ce soit du gel. Il faut que ce soit entre 0 et à peu près 7 degrés pour que ça fonctionne. Et vous le laissez là au moins un mois. D'ailleurs, si vous cherchez des fois spécifiquement, vous trouvez peut-être la durée exacte. C'est souvent c'est entre 2 semaines et 3 mois. Personnellement, pour une plante comme la Caragana, je laisserai ça 3 mois. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui vient du Grand Nord. Et la protection, ce qui arrive avec des semences comme ça, c'est que c'est une protection, cette inhabilité de germer s'il n'y a pas eu de foie. C'est une protection entre une germination trop tôt. Imaginez-vous, dans le nord de la Sibérie, où cette plante pousse, les graines sont au sol, et il a fait froid depuis un mois, tout d'un coup, il y a un dégel. Il commence à faire chaud, ça peut arriver. Et la plante, il ne faut pas qu'elle germe là. Si elle germe là, elle va mourir. Le froid qui va revenir, elle va la tuer. Mais elle est probablement programmée pour 3 mois de froid. Dans ce cas-là, même s'il y a un réchauffement au plein milieu de l'hiver, elle va dire non, je ne germe pas, moi je reste là. Bon, elle ne parle pas, là, je comprends, mais vous comprenez. Mais c'est prévu que la plante doit avoir 3 mois de froid avant de pouvoir germer. Donc moi, je laisserai 3 mois. Et donc, c'est une façon facile d'encourager ces plantes-là de germer. Et donc, encore pas besoin de gel. C'est le foie qu'il faut. Il faut que ce soit une foie humide. Ça, c'est très important. Parce que les gens qui disent, oh, pas de problème, je prends le sachet de semences, je le mets au frigo. Mais s'il n'y a pas de contact avec l'humidité, ça ne marche pas. Il faut que ce soit foie humide. C'est pour ça qu'on les sème dans un terreau.
Patricia Dufresne revient avec une autre question. Elle dit, j'ai une question sur les crotons comme le magnifique derrière vous. J'ai lu quelque part que les plantes dites variegata ne font pas de photosynthèse au niveau du blanc, seulement au niveau du vert. Est-ce le même principe avec les autres couleurs comme sur les crotons? Merci, M. Hutchin, j'aimerais bien me joindre à vous, moi.
OK, justement, c'est ce que vous voyez derrière ma tête. Si je bouge, vous voyez un peu plus. Sur mon vieux croton, 25 ans, peut-être ou plus, quelque chose comme ça. Ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un vrai arbre, hein, maintenant. Bon, en fait, vous avez raison. Le blanc, en général, c'est l'absence de chlorophylle. Il n'y a pas de chlorophylle. Il ne peut pas avoir de photosynthèse. Donc, quand vous avez une plante qui a des sections blanches, des taches blanches ou des espaces blancs sur les feuilles. En général, il n'y a aucune photosynthèse qui se fait par ces parties-là. Ça se fait par d'autres parties. Par contre, le vert, bien sûr, c'est la photosynthèse, mais la plupart des autres couleurs qu'on peut voir, comme orange, rouge, pourpre, enfin, ce sont des sections qui ont des cellules vertes, mais avec un grand nombre d'autres couleur, ce qui fait que ça cache le vert de nos yeux, mais le plant peut quand même faire la photosynthèse. Donc, je ne dis pas que ça réduit peut-être un peu la lumière qui rentre, mais au moins les plantes peuvent faire la photosynthèse. Donc, c'est vraiment les parties blanches qui sont les parties qui contribuent pas quoi, à la croissance de la plante. Et dans ce cas-là, cette plante-là, derrière moi, il n'y a rien de blanc. C'est toutes les couleurs autres. Et elle fait des photosynthèses partout sur la surface des feuilles.
Steve Gagnon, avez-vous des conseils pour encourager une violette africaine à fleurir?
Ah, d'abord, pas de foie. L'Africaine, la violette africaine n'aime pas le foie. Des fois, des rebords de fenêtre. On dit, voyons, c'est chaud chez nous. Et ce rebord de la fenêtre la nuit, c'est presque à se voir. Donc, un peu de chaleur. L'hiver, bien sûr, c'est pas la saison la plus évidente parce que la lumière manque un peu. Mais si on les met sur des lampes fluorescentes, à raison de 14 ou 16 heures d'éclairage par jour, ou des lampes d'ailes aussi, même chose, on peut stimuler une meilleure floraison de cette façon-là. Une certaine humidité, il ne faut pas que ce soit super sec, mais ça vous donne l'idée. C'est chaleur et lumière modérée qui font la différence pour cette plante-là. Et il s'agit d'avoir un peu de patience, mais l'engrais, évidemment, tout le monde dit, quel engrais je dois mettre, engrais ci, engrais ça. L'engrais, ce n'est pas un facteur majeur dans la floraison. Les marchands le disent, mais ils disent pour faire vendre. Ça a peu d'effet. Oups! Voilà. Les bruits qu'on entend dans une serre l'hiver.
Dorothée Beauséjour, bonne année, M. Hudson. J'ai parti des boutures de buis, comme vous en avez déjà parlé. J'ai des racines qui commencent à sortir à la base, mais pas de nouvelles feuilles. Dans combien de temps puis-je espérer voir de la croissance? Merci.
Bon, le buis, Buxus, est un arbuste, croissance très lente, produit pas beaucoup de feuilles dans une année, et donc tout est ralenti. Mais normalement, cette plante-là produit ses feuilles au printemps. Un peu au début de l'été, mais pas plus que ça. Donc, c'est pas une plante tropicale qui a une croissance plus ou moins continuelle, avec des hauts et des bas, mais quand même une certaine croissance en tout moment. Cette plante-là pousse surtout au printemps, au début de l'été. Après ça, ça arrête. Donc, il faut que vous attendiez que les nouvelles feuilles paraissent surtout à partir du printemps. Maintenant, si la plante est à l'intérieur, ça se peut que le printemps soit dès la fin de février, là, parce que les jours rallongent, les plantes réagissent à ça. Mais en plein air, bon, on veut que ce soit assez chaud pour que le buis fasse les feuilles. On va être rendu au mois de mai, ou plus tard encore. Donc voilà, c'est une question de la patience, parce que ça arrive, et voilà.
Régent Desnoyers, bonjour à vous. J'aimerais savoir, pour les couleurs les colleux, le plus pratique est de bouturer des plants ou semer des graines, et vers quelle date semer ou bouturer pour avoir des plants prêts pour l'été?
Bon, là, je pense que ça doit être Coleus, hein? Pas Coleus.
C-O-L-E-U-S.
Coleus, c'est ça. OK, parfait. Merci. Donc, le Coleus, c'est une plante à croissance rapide. Par semence, ça prend quand même à peu près 6 à 8 semaines avant que ce soit, disons, potable, mais ça veut dire que vous pouvez le semer début d'avril à peu près, soit amplement, pour porter ça par semence. Par bouture, vous pouvez bouturer n'importe quand, dans le fond. Moi, je dirais, c'est pas le moment idéal. On peut bouturer maintenant, c'est pas un problème. Mais les plantes risquent d'être un peu faibles, vu que l'éclairage n'est pas fort. L'idéal, ce serait d'attendre fin de février, quand les jours rallongent pour la peine, et là, on fait des boutures à la chaleur, bien sûr, et là, de plantes vont être assez gros pour être beau l'été. Et vous savez, on peut faire des boutures encore et encore avec les Coleus. Vous rentrez une plante à l'automne, vous pouvez en faire 20 avec des boutures que vous faites. Une plante qui est prolifique quand on veut.
OK. François Allais, j'ai l'air... OK. Je ne sais pas, je l'ai peut-être posé. J'ai l'impression que mes 20 plantes intérieures auraient besoin d'être transplantées. Je sais qu'au début du printemps, c'est mieux, mais est-ce correct à d'autres moments aussi? À ce moment-ci, c'est-à-dire, excuse-moi.
OK. Les plantes intérieures, moi, je recommande aux gens d'habitude rempoter au printemps ou à l'été. Tout simplement parce que les plantes réagissent mieux, plus rapidement au changement, parce que c'est le moment où elles sont pleines d'énergie. Le soleil est fort, ou de plus en plus fort, les plantes réagissent à ça, font beaucoup de nouvelles croissances, etc. Par contre, si y a une bonne raison pour les rempoter à un autre moment, c'est pas la fin du monde. C'est juste une touche meilleure de le faire au printemps. Surtout, il reste quand même, veut pas, on a beau dire que c'est l'hiver, mais les jours allongent un peu pareil. Fait que, moi, je dirais, les plantes qui sont, comment dirais-je, qui croissent un peu l'hiver, ce sont les plantes les plus intéressantes à remporter l'hiver. Ceux qui rentrent carrément en dormance et qui font fondre de bulbes ou quelque chose comme ça, là, j'attendrai vraiment plus tard. Parce qu'on ne veut pas choquer la plante en dormance en ajoutant un terreau humide autour quand la plante est censée dormir. Donc, pour les plantes qui poussent un peu, la majorité des plantes intérieures, ce serait dans ce cas-là. Je vais faire maintenant, si vous voulez, aussi, je ferai très attention avec les succulentes et les cactus. Le remporter-les d'accord, mais dans un terreau sec. Les arroser pas de suite. C'est juste, on va le retarder un petit peu dans la croissance. Voilà.
François, allez, j'ai l'impression que je viens de la poser, celle-là. Patricia Dufresne, acheter une rapidophora, bel exercice de diction, selon le vendeur, mais il ne savait pas quelle variété exacte il s'agit. C'est très ressemblant à une Montera tuberculosa. Savez-vous de quelle variété de rapidophora?
Rapidophora. D'ailleurs, Michel, une belle leçon de prononciation des noms botaniques. Et tu as fait exactement ce qu'il faut. On prononce toutes les lettres, tout simplement. Et ça sort très bien, j'ai parfaitement compris. J'essaie de parler. Je l'ai chez moi, j'ai plusieurs rapidophora chez moi. Pour ceux qui ne comprennent pas, rapidophora est une plante de la même famille que le Monstera. C'est une RSC, mais le Monstera, sont limités au Nouveau Monde. Hein. Ces plantes des tropiques du Nouveau Monde. Mais des plantes de la même famille ont évolué aussi des feuilles trouées et déchirées, coupées de la même façon, mais dans l'Ancien Monde, en Asie notamment, en Afrique aussi un peu. Et dans ce cas-là, le genre Rhaphidophora, qu'on ne voyait jamais sur le marché avant, est maintenant sur le marché. Donc, c'est cette plante-là qu'on peut voir sur le marché. Ça se comporte plus ou moins comme un Monstera, mais les feuilles ne deviennent jamais de grande taille. C'est la grosse différence. Donc, il va falloir que vous pensiez à la plante comme étant une plante de petit feuillage. L'éclairage, un éclairage normal d'intérieur est parfaitement correct. Ce n'est pas une plante qui demande beaucoup de lumière. Arrosage comme un Monstera. Et si je me souviens bien, c'est Rhaphidophora tetranema. Tetranema, sur le 4 graines, en tout cas. Peu importe. C'est une plante, un beau petit plant, je l'ai sur mon mur végétal, entre autres, chez moi. Voilà.
Daniel Cordeau, mes amaryllis font des feuilles, font du feuillage et pas de boutons, malgré que j'ai bien suivi vos recommandations.
Oh, écoutez, ça arrive, hein? Il va falloir vous... Et normalement, quand les feuilles commencent vraiment à pousser, s'il n'y a pas de boutons de floral qui paraît, d'habitude, vous n'aurez pas de fleur de l'année. Ça arrive. C'est évidemment le problème, bien sûr, toujours, c'est de donner assez de lumière à cette plante dans nos maisons qui ne sont pas très éclairées. Et je sais que tout le monde dit, oui, j'ai très éclairé chez moi. Mais regardez-moi, j'ai une serre derrière moi. Lumière de trois côtés. Et c'est pas terriblement clair aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, on a des difficultés à obtenir assez de lumière, des fois, pour cette plante de plein soleil-là. Mais assez de nouveau. Moi, ça m'arrive. La plupart fleurissent annuellement. Et même moi, j'en ai quelques-uns qui vont sauter une année et reprendre l'année suivante.
Manon Bernier, j'ai fait couper un gros sapin malade cet été. Ça a dégagé un bel espace ensoleillé. J'aimerais faire un jardin à cet endroit. Est-ce possible avec une terre ajoutée sur des lits surélevés? Merci pour votre générosité et votre grand savoir si apprécié.
Oh, bien sûr. Même ce serait la façon la plus facile de le faire. Parce que c'est sûr que vous pouvez planter dans le sol directement au pied de l'épinette, mais là, vous avez toutes ces racines qui n'ont pas encore pourri et qui vont être là encore des années de temps. Donc, il est beaucoup plus facile de faire une planche surélevée, rajouter une bonne couche de bonne terre, disons environ 30 cm, c'est ça que ça prendrait, et là, vous allez avoir des résultats très intéressant dès la première année. Il n'y a que les plantes à racines très longues, comme les carottes, les panais, certaines radis, comme les daïcons, qui trouveront 30 cm de terre pas assez pour atteindre le plan de longueur. Mais pour les autres plantes, vous pouvez faire ça. Vous pouvez utiliser les planches peut-être pour supporter la terre que vous rajoutez directement sur les racines du sapin. Et ça devrait très bien aller.
Marcel Lacasse, comment faire germer des glands de châtaignier d'Amérique?
Oui, châtaignier d'Amérique, en tout cas, je ne sais pas où vous avez trouvé, parce que c'est une plante extrêmement rare, mais c'est pas très compliqué, mais quand même une plante qui aime avoir un traitement au foie. On en a parlé plus tôt dans l'émission. Donc, les noix, parce que c'est petit, assez gros, vous les semez. Moi, je les mettrais dans un cas comme ça. Je les mettrais dans un pot plus gros, plusieurs dans un pot plus gros, les enterrant à peine, et je les mettrais au frigo. Et au bout de 3 mois, je les sortirais. Et quand vous verrez la croissance va suivre au cours du printemps, l'été, là, les séparer, les empoter individuellement. Et c'est quand même pas une plante difficile à cultiver. Présumant que vous êtes dans une région où ça peut pousser. Je sais que ça marche à Québec. On a des spécimens au jardin mandarin, d'entre autres, qui poussent et qui produisent des châtaignes. Mais dans les régions de Troyes, un de Troyes, je ne pense pas qu'on pourrait réussir avec cet arbre-là. Et juste pour dire, pour ceux qui ne comprennent pas, châtaignier d'Amérique, c'est un grand, grand arbre des États-Unis ou du sud du Canada, pas indigène au Québec, mais tout près, et qui était presque anéanti par une maladie fongique. Donc, il ne reste à peu près aucun spécimen de taille important. Et la plupart des spécimens au monde sont des repousses des arbres qui ont été endommagés par le champignon en question. On peut les cultiver souvent dans les régions comme la nôtre où il n'y a jamais eu de châtaignier, puisque la maladie, donc, n'a jamais été présente dans ces régions-là.
Lucie Desjardins, elle te dit bonjour. Elle dit, j'ai une euphorbe trigona depuis des années. Il y a des croûtes brunes sur les tiges principales qui s'étendent de plus en plus sur le reste de la plante. Comment stopper cette progression?
Vous ne pouvez pas, ce que votre plante mûrit. C'est un arbre, vous savez, un petit arbre. Mais comme bien des arbres, l'écorce change de couleur. Donc, cette plante-là fait la photosynthèse par ses tiges, par son tronc et ses tiges qui sont vertes. Mais à maturité, ça devient des branches qui prennent le plus de dessus. Et les anciennes parties deviennent de plus en plus ligneuses pour mieux supporter le poids du reste de la plante. Et comme elles deviennent ligneuses, elles deviennent brunes, elles ne font plus de photosynthèse. Et on ne peut rien faire. C'est tout à fait normal pour cette plante-là d'avoir des sections brunes sur les tiges, sur le tronc et sur les plus vieilles parties des tiges. Ce n'est pas un problème. C'est juste la vie normale.
Carole Gervais, bonne année. Je possède une plante rose du désert. Il y a quelques feuilles jaunes. Dois-je m'inquiéter si je n'arrose pas beaucoup? Bonne journée.
Parce que si vous n'arrosez pas beaucoup et juste quelques feuilles jaunes, je ne vois pas de problème. Cette plante-là peut offrir carrément dormance, vous savez. Elle perd toutes ses feuilles et ça repousse plus tard. Donc non, ce n'est pas une inquiétude. Le fait que vous arrosez pas beaucoup, c'est excellent. J'espère quand vous dites quand vous arrosez pas beaucoup, que vous arrosez beaucoup et vous laissez sécher beaucoup entre les arrosages. C'est la façon de faire. Non, c'est pas un problème. Vous savez, aucune feuille vit éternellement. Elles finissent toujours par jaunir. Les plus anciennes, c'est normal. Et en général, les plantes perdent plus de feuilles l'hiver qu'à d'autres saisons. Donc, rien d'inquiétant là-dedans.
Marie Lenoux, elle nous souhaite bonne année et elle te remercie pour l'émission. Elle dit, j'ai acheté 2 petits pains en pot afin de décorer pendant 4 jours dans la maison pendant le temps des fêtes. Ils sont maintenant dans le garage non chauffés. Comment dois-je m'en occuper en attendant de les planter au printemps? J'habite en zone 5.
Vous avez bien fait. Laissez-le dans le garage. Vous savez, pensez-y, le pain ne pousse pas l'hiver ou presque jamais. C'est en dormance. Fait que le fait que ça ne plante pas de lumière pour l'instant, ce n'est pas grave. Au printemps, dès que la neige commence à partir, vous pouvez les sortir, les acclimater à l'extérieur, parce que les feuilles peuvent être un peu fragiles. Les écus peuvent être un peu fragiles au soleil les premiers jours. Donc, l'habituer peu à peu, et vous pouvez le replanter dès le mois de mai. Pas de problème du tout.
France Leblanc. Elle dit qu'elle a acheté un lierre en pot l'automne dernier et malheureusement, ces derniers jours, il y a eu des milliers de petites araignées. Je lui ai donné une douche évaporisée du savon noir. Maintenant, elle semble OK, mais elle a eu un choc. J'aimerais savoir comment faire pour que ça ne se reproduise plus. Quel engrais? Merci.
OK. Ça, c'est vraiment... Donc, on parle de lierre anglais, Heather Helix, qui est très sujette aux araignées rouges. C'est ce que vous avez vu. Les araignées rouges sont des tétraniques. Ce sont des mites à huit pattes qui, quand il n'y en a pas beaucoup, on ne les voit pas. Mais quand il y en a beaucoup, ça couvre le feuillage. On voit des fils d'araignées partout. Et vous avez bien fait de donner une douche. Après le savon noir aussi, ça peut être efficace. Mais c'est surtout la douche qui fait la différence. Hein. Ça les fait tomber. C'est vraiment ça qui est important. La plante va encore faire ça tous les ans si vous n'augmentez pas l'humidité. Pas c'est l'humidité qui fait la différence. Les araignées rouges ne profitent pas quand l'air est humide. C'est quand l'air est sec que ces insectes, pas insectes, ce sont pas les insectes, mais disons, ces bébêtes-là vont proliférer. Donc, il faut vraiment essayer, si possible, de donner plus d'humidité, ça peut aider. Et si vous voulez les garder plus frais aussi, ça va les décourager. Sinon, prenez l'habitude de prendre la plante et la rincer dans l'évier ou sous la douche une fois par semaine et vous n'aurez pas d'araignées rouges. Ça va les faire tomber. C'est vraiment... L'eau, vous savez, est un excellent insecticide. Hein? Excellent insecticide et pas nuisible à l'environnement. Voilà.
Louise Messier Luciani. J'ai des Miscanthus sinensis que je ne taille pas à l'automne. Alors, est-ce que c'est une bonne pratique de ne pas le tailler? Et au printemps, quelle est la meilleure hauteur pour les tailler? Merci de vos bons conseils.
Ben non, d'ailleurs, on ne taille pas des Miscanthus à l'automne. C'est pas juste vous, là, c'est la normale. C'est que c'est promis les graminées avec un bel effet hivernal. Donc, les gens les laissent debout. Le feuillage n'est plus vert, par contre, elle est rendue beige. Mais c'est une plante qui est debout, avec des feuilles qui bougent au vent. On a, pour certaines variétés, on a des épis de fleurs argentés. Donc, c'est un très bel effet sous la neige. D'ailleurs, je ne sais pas si on va voir chez moi en arrière, mais en tout cas, j'en ai quelques-uns. Bon, donc, c'est tout à fait normal. Presque personne ne les taille à l'automne. Les seules personnes qui les taillent à l'automne, c'est les je ne sais pas, d'ailleurs, j'ai déjà parlé aux gens de la ville de Québec. Pourquoi faut le tailler à l'automne? C'est parce que c'est notre saison pour tailler. C'est la réponse. Il n'y a rien à comprendre des fois. Hein? Mais au printemps, pour pas que vous ayez cette période où les nouvelles feuilles sont mélangées aux feuilles mortes, le plus facile, c'est de le rabattre. Court, moi je dirais 15-20 cm du sol, tout simplement. C'est pas très compliqué. Il se repousse tout seul. Plante très, très facile. Hein?
Patricia Dufresne, elle dit, ça me fait rire, beaucoup de questions aujourd'hui. Si je me questionne sur la durée des plantes, comment savoir sa durée de vie à l'état naturel et ou en pot?
Alors là, je pense que vous aurez cherché longtemps. On peut trouver pas des plantes individuelles. Là où on trouve le plus de renseignements, c'est sur les arbres, parce qu'on vu que certains atteignent les très grands âges, les gens veulent savoir. Et quand on fait des recherches, on découvre des choses comme certains arbres qui vivent rarement plus que 25 ans et d'autres qui atteignent facilement 100 ans et plus. Pour les autres plantes, c'est extrêmement variable. Les annuelles, bien sûr, on sait, un an, c'est mort. Bon, voilà, ça, c'est réglé. Mais les vivaces, on a des vivaces qui sont presque éternelles, par exemple une pivoine ou une deptisia, mais d'autres aussi qui ne vivent pas très longtemps, Gaillard, Rudbeck, etc. Donc, il s'agit de vous informer. Vous n'avez vraiment pas le choix. Et d'autres plantes sont faites pour vivre éternellement, dans le fond. Je pense notamment aux plantes qui se bouturent naturellement, qui font de marcottage, des plantes rampantes ou rampantes, entre autres. Souvent, la plante meurt à la base, mais comme la prise racine ailleurs, elle continue de vivre. Donc, très difficile de donner quoi que ce soit comme date là-dessus.
Robert Breton. L'été dernier, je me suis procuré deux jeunes plants d'argousier pour apprendre cet hiver que c'est une espèce dioïque. J'y suis arrivé. Oui. Comment savoir si un plant, si j'ai un plant mâle et l'autre femelle? Merci, bonne année.
Oh, ça c'est plate. Normalement, il faut s'assurer dès le départ. Et en plus que la plante ne fleurit pas nécessairement tout de suite, comme beaucoup d'arbustes, ça peut prendre 3-4 ans, peut-être un peu plus. Donc, la seule façon de savoir, c'est de voir les fleurs. Elles sont très discrètes, mais il y a des fleurs pareilles au printemps, à un moment donné. Et vous allez être obligé de regarder, pas la loupe, mais presque, parce que ça serait bien d'avoir une loupe juste au cas où, pour voir s'il y a de l'anthère avec du pollen jaune, des anthères, ou s'il y a des seulement au centre, une étamine qui peut être plus blanche ou plus collante. Mais c'est de l'inspection. Mais idéalement, il faut savoir d'avance. On peut prévoir que si quelqu'un vous a donné une plante, c'est probablement une femelle. Parce que ça se rajeune. Normalement, on plante un mâle pour 7-8 femelles. Donc, les chances que ce soit une femelle, c'est beaucoup plus grand que ce soit un mâle.
Myriam Hamilton, j'ai un petit ficus que je veux travailler en bonsaï. Quel substrat que je devrais utiliser? Terreau, perlite? Merci d'avoir partagé votre passion avec nous.
Bon, à vous de choisir. Il existe des mélanges de bonsaï, mais souvent on va utiliser ça pour une plante qui est comme faite, là, qui commence à prendre vraiment la forme finale. Parce que lorsqu'il arrive la terre à bonsaï, il ne veut pas avoir de perlite parce que ça remonte à la surface. On ne veut pas voir de perlite. On voit des racines, on voit des mousses, etc. Donc, et pour la culture de tous les jours, n'importe quel terreau bien drainé peut faire. La plupart des terreaux d'empotage, tout simplement, sont très bien pour les plantes semblables. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit de très spécial. Mais il faut que ce soit bien drainé, si jamais pour des raisons quelconques. Vous avez un terreau très lourd qui garde beaucoup d'humidité, ce ne serait pas un bon choix pour les futurs bonsaï. Un ficus comme ça.
On prend notre temps pour la prochaine question. Bonjour. J'ai reçu 3 bulbes d'ail du Québec. Quand dois-je les planter au jardin? Et c'est Sophie qui nous écrit ça. Sophie Sarrazin, elle est en zone 5B.
Bon. Normalement, c'est à l'automne qu'on plante l'ail. Donc, septembre, octobre, début de novembre. C'est comme une tulipe, si on veut. On le plante à l'automne, ça pousse au printemps, l'été entre en dormance, et alors on fait la récolte à la fin de l'été, quand ça rentre en dormance. À cette date-ci, c'est trop tard pour planter à l'extérieur. Donc, il faut au moins que ce soit pas... 5B, ça se peut que vous n'ayez pas de neige encore. Mais si oui, vous pouvez toujours planter à l'extérieur, ça serait mieux. Mais si vous pouvez planter, gardez-la au sec et au frais, durant l'hiver, les bulbes, et plantez-les au printemps dès que vous pouvez. Le résultat va être une récolte pas extraordinaire la première année, parce que la plante n'a pas eu son traitement normal. Mais vous devez avoir un peu des cailloux, des petits. Replantez les petits à l'automne, et les années suivantes, vous allez avoir une récolte beaucoup plus intéressante.
Marcel Lacasse veut savoir la différence entre le chêne blanc et le chêne gros fruit. Qui produit plus vite et en combien d'années?
Oh mon doux! Évidemment, le chêne gros fruit, les deux se ressemblent. Les deux ont des feuilles ondulées plus que pointues. Ils ne sont pas du groupe des chênes rouges et noirs qui ont des feuilles pointues. Et ils se ressemblent beaucoup. Le chêne blanc est, comment dirais-je, plus égal, feuillage est moins d'extrême. C'est plus égal tout le long. C'est difficile à décrire. Qui produit le plus vite? Combien d'années? Ça, par exemple, c'est lent pour les deux. Moi, je dirais que chêne blanc est peut-être un peu plus vite. Mais les deux prennent des 20 ans et plus en général. Je ne dis pas que ça peut arriver plus tôt, mais le chêne, c'est, ça pousse vite dans sa jeunesse, ça devient un beau gros arbre assez rapidement. Mais avant d'avoir des fleurs, et on comprend pour des fruits, il faut d'abord avoir des fleurs. Ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, ce n'est pas rare pour les grands arbres. Il n'y a pas beaucoup de grands arbres qui vont faire des semences avant 20 ans. C'est tout à fait normal.
Claire Messier, j'ai un épisquia qui végète. Quel conseil me donnez-vous?
OK. Dans un cas comme ça, vous pouvez toujours faire le mettre dans un terrarium. Soit un terrarium véritable ou un contenant vitré ou un contenant de muffin plastique transparent. C'est que la plante aime beaucoup l'humidité. Et quand vous le mettez dans un milieu humide, ça pousse rapidement. Il ne faut pas que ce soit au frais. Pas une plante qui aime ça. Donc, si c'est plutôt frais chez vous, vous le mettez dans un endroit plus chaud que dans le normal. Il y a une forte humidité et la plante devrait reprendre rapidement. Et je rappelle aux gens qui ne connaissent pas l'épicéa que c'est une plante à feuillage coloré, même famille que la vierge africaine, mais avec des feuilles multicolores, souvent fleurs rouges. Mais les fleurs sont plutôt rares.
Chris Duff a dit, homme ou femme, je ne sais pas, la personne dit, « Bonjour, j'ai déménagé dans une nouvelle maison et, étrangement, les plantes qui allaient très bien dans mon ancienne maison.
Oui, Michel?
C'est parti. Oh.
Michel?
Oui, je suis là.
OK, c'est coupé tout d'un coup.
Tu m'entends?
Oui, là, je t'entends.
Parfait. Bon, je recommence. Chris Duff, j'ai déménagé dans une nouvelle maison et étrangement, les plantes qui allaient très bien dans mon ancienne maison, Spartifilius, langue de belle-mère, vont mal dans la nouvelle maison et, contrairement, des plantes qui allaient très mal dans mon ancienne maison, entre parenthèses, Aloes vera, vont extrêmement bien. L'éclairage est similaire. Comment expliquer cela? Et elle a une sous-question. J'ai reçu des fleurs du paradis. En moins de 5 mois, les feuilles ont séché et la plante est décédée. Je l'ai mise près de la porte patio, orientation sud-ouest, et elle n'allait pas bien. Si je la laissais dans la salle de bain, elle semblait se stabiliser. Quels sont les secrets pour garder cette plante?
OK, on commence avec la première question, bien sûr. C'est probablement suite au changement. Vous avez changé de maison. Même si les conditions sont bonnes, certaines plantes s'adaptent moins bien que d'autres. Et je soupçonne que même si vous dites que l'éclairage est pareil, c'est pas exactement pareil. Donc, je soupçonne, si l'aloïse va bien, je ne vois pas pourquoi les langues de belle-mère et les spatifilum ne peuvent pas aller bien éventuellement. Donc, laissez-les s'acclimater. Si le déménagement est lieu au printemps ou au début de l'été, les plantes ont plus le temps. Et surtout quand ils déménagent à l'automne ou pendant l'hiver, ça peut être un peu plus une choc que le système. Moi, je dirais d'attendre, d'arroser avec attention, attendre que la plante soit sec avant d'arroser. Et quand vous voyez que la plante recommence à pousser, là, vous pouvez recommencer les arrosages comme d'habitude. Mais c'est probablement une question de temps. Quant à notre plante, l'oiseau de paradis, je ne sais pas si je m'attends, vous allez mieux le voir. Bon, on voit vraiment juste une feuille. C'est la feuille qui est juste là. Je ne suis pas capable de voir là. Ça, c'est une feuille d'oiseau de paradis. Bon. Elle aime beaucoup le soleil. Elle n'aurait pas dû être dessus dérangée pour l'emplacement que vous avez mis. Pourquoi ce n'est pas bien là, je ne sais pas. Je soupçonne que la plante avait déjà un problème avant que vous l'ayez acheté. Donc, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Si la plante avait commencé à pourrir, ça prend du temps. La plante ne pousse pas vite, elle ne meurt pas vite. Si la plante a déjà commencé à pourrir avant l'achat, elle va continuer. Donc, moi, je pense que cet emplacement devrait être correct. Un des secrets, je sais que ce n'est pas logique, mais il faut trouver une plante qui n'est pas en fleur. Le fleurir, c'est stressant pour la plante. Ça prend plus d'énergie. Et quand on change une plante de place pendant sa floraison, ça peut être plus difficile. Trouver une plante donc qui est bien adaptée, qui est bien gros, pas, on peut avoir plus de succès dans ce cas-là. Donc peut-être acheter la prochaine fois un qui est bien établi, mais sans fleurs. D'ailleurs, les miennes ont été cultivées par semences. C'est les derniers, j'en ai donné plusieurs autres, mais j'ai gardé un seul spécimen. Et c'est les semences que j'ai semées. Et ça a pris 7 ans avant d'avoir des fleurs. Donc ça, il faut avoir la patience.
Catherine Duchesne. J'ai deux... OK, c'est deux gros hibiscus, c'était ceux qu'on vient de répondre, excuse-moi. Manon Lasselle. J'aimerais savoir ce que vous pensez du compost de la ville.
En général, c'est très bien. Ça, des gens vont être surpris d'entendre ça. Mais habituellement, les villes font du compost à la chaleur, donc ça stérilise passablement. Il y aurait très peu de potentiel de microbes, etc. Ce qui dérange les gens, c'est qu'on va trouver des morceaux incongrus dedans. On a beau trier à l'arrivée, il arrive des bouts de plastique, des choses comme ça. Mais ça, c'est pas la fin du monde. En général, c'est très bien. C'est des composts qui n'ont pas été assez chauffés qui causent habituellement des problèmes avec les semences qui sont encore en vie. Mais la ville, au moins que ce soit une ville qui ne fait pas vraiment ça comme il faut, mais les villes, habituellement, procèdent en laissant le compost se réchauffer passablement, assez pour tuer les graines, les semences. C'est prévu. Donc, normalement, c'est un excellent compost avec pof, des morceaux de plastique et autre chose bizarre. Mais ça, on peut composer avec ça. Les plantes composent bien avec ça aussi.
Annie Gilbert, j'arrose presque toutes mes plantes par bassinage. Est-ce que je dois éviter cette technique pour certaines plantes?
Oui. Les plantes à feuillage poilu en général, comme une virus fricaine, une épicière, on va parler d'épicière tantôt, ou peperonia incana ou des choses comme ça. Les plantes qui ont du poil, c'est vraiment pas une bonne idée. D'ailleurs, c'est pas une bonne idée pour la plupart des plantes. Je ne sais pas, sauf peut-être certaines orchidées, certaines bromeliacées. Parce que est-ce que le terreau devient vraiment assez humide? Moi, j'aurais peur qu'il soit stressé, constamment en état de stress, à cause d'un manque d'humidité au niveau des racines. Ça peut marcher pour la communauté Landia, qui n'a pas de racines vraiment, mais pour les autres plantes. Bassiner, c'est pas toujours une bonne façon d'arroser.
Stella Pelletier, quel est le truc pour faire pousser des graminées décoratives comme le Penistum et l'Argurium? Ce n'est jamais facile pour moi.
Oh! Moi, je les trouve pas. Ce n'est pas. Le Penistum, ça dépend où vous êtes aussi. Hein. Mais les Penistum ne sont pas toujours assez rustiques pour notre climat. Donc, ça serait facile. Que ce soit une plante qui disparaisse, l'agurus est un annuel. Donc, devrait bien pousser la première année, mais c'est mort à la fin de la saison. Donc, les variétés annuelles, il faut soit les laisser aller, ou dans le cas du Penicillium rouge, on peut le rentrer, le garder dans la maison, sinon ça meurt. Parce que ces plantes-là, beaucoup de graminées sont rustiques et des vivaces. Mais certaines, il faut les considérer comme des annuelles ou sinon comme des plantes à rentrer à l'automne pour pouvoir les conserver.
Sylvie Lachance, elle nous souhaite bonne année et tout. Évidemment, de la santé. Et elle dit, j'ai un plant de fruits de la passion que j'avais en pot dehors en 4B cet été, qui a fleuri et monte dans un treillis. Je l'ai coupé et entré à l'intérieur. Il pousse lentement encore. Est-ce que je pourrais le mettre en terre l'été prochain et le laisser à l'extérieur?
Vous pouvez le remettre en terre l'année prochaine, pas de problème, mais le laisser à l'extérieur, non. Vous êtes en zone 4B, il y a une passiflore qui a une certaine rusticité, mais c'est pas solide. 6B, 7 à peu près. Les autres ne sont pas rustiques du tout. Donc, non, il faut vraiment le rentrer à l'automne. Et sinon, il faut le conserver comme annuel. Donc non, il faut vraiment rentrer ça à l'automne. C'est pas rustique.
François, allez, j'ai une Akemia qui a terminé sa seule floraison et un rejet a poussé. Ce rejet mesure maintenant 6 pouces. C'est le temps de transplanter le rejet?
Environ, oui. Moi, je dis aux gens, quand le rejet est un tiers de la hauteur de la plante mère, on peut le séparer. Et on peut aussi le laisser plus longtemps, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même le laisser avec la plante mère en permanence. À chaque personne de faire ça comme il veut. Mais oui, ce serait le moment pour le séparer, pour l'emporter individuellement.
Dernière question. Kate Redford, j'ai une grosse haie de caragana qui est malade chaque année. Du blanc envahit les feuillages. Je la traite pas car trop décourageant. Si je le fais, j'arriverai à me débarrasser de cette maladie. Je songe à remplacer ma haie par autre arbuste.
Écoutez, si vous traitez au début de la saison et régulièrement au cours de la saison avec une fongicide appropriée, vous pouvez prévenir, mais la maladie reviendra l'année suivante. Donc moi, dans un cas comme ça, je pense que votre deuxième idée est la meilleure. Planter autre chose. Je sais que c'est plate pour une haie, mais alors, ou encore, vous laissez faire. La plante ne meurt pas, hein? C'est juste du blanc. Le blanc, c'est pas une maladie mortelle, hein? Pas pour les plantes permanentes. Fait que la plante va passer par une période pas belle, puis après ça, elle va repousser au printemps. Donc, à vous de décider, mais si vous voulez vraiment plus voir ça, l'idéal, ce serait remplacé par autre chose qui ne fait pas de blanc. Et Michel me dit tantôt, c'était la dernière question.
Effectivement, on n'a malheureusement plus de temps pour les questions. Ça a été une belle émission aujourd'hui, je trouve.
Ah, merci beaucoup, c'est le fun pour tout le monde. Donc, bonne année encore, bon jardinage. On va te retrouver mercredi prochain à 10h. Et merci beaucoup à Michel Bédard et aussi à l'équipe de Sequoia. Merci, bye-bye, bon jardinage.
Bonne semaine. Bon. Ça a bien été. Eric?
Ça a bien été. J'ai des moments au milieu où c'était un peu moins bien, mais en tout cas.
Ouais, il y a des... Puis le pire, c'est que j'essaie de lire un peu les questions d'avance pour les avoir en bouche, pour pas faire de la lecture à vue trop, là. Surtout quand c'est des... Il y en a que c'est quand même des longs textes. Puis, le monde, et je te parle pas de la qualité du français, là. Je te parle de la structure de phrase.
Ah oui.
Des fois, c'est quasiment juste des mots à coller un à côté de l'autre. Tu essaies de faire une phrase avec ça, tu fais, hein? De quoi tu parles? Ça devient un petit peu. C'est pas toujours évident, mettons, de lire ça.
Non.
Mais bon.
J'ai déjà été enseignant et j'en suis pas revenu à quel point que les gens, les jeunes ou même les adultes,
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
fait tard.